LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
C'est une histoire européenne. Le baron Drell avec ses draisiennes, les Anglais avec les Granby, les Français Michaud avec l'invention de la pédale, qui est quand même une sacrée invention.
Jean-Louis Fréchin,
et puis
designer.
Ces Anglais qui font un moment la synthèse avec les deux roues, la chaîne, les pédales. Un Anglais arrive à Saint-Étienne et forcément les fabricants de fusils qui font des tubes boissent ça. Puis l'histoire a commencé comme ça. C'est la première machine d'augmentation de l'homme. Les purs, le double triangle comme on l'appelle, diamant, avec les deux roues, la chaîne, on n'a pas fait mieux.
La vélo-révolution. Histoire d'un objet en pièces détachées. Une série de Julie et Jean-Philippe Navarre. Deuxième partie, essor, déclin et renouveau.
C'est l'industrie du cycle qui a inventé la production en série et qui a pavé le chemin de l'industrie automobile.
Frédéric Errand, urbaniste, économiste des transports.
La production en grande série, c'est très exigeant parce que ça veut dire, par exemple, créer des pièces parfaitement interchangeables. Or, un vélo, c'est à peu près 1500 pièces à assembler. C'est absolument énorme. C'était fin 19e, début 20e, la seule en fait industrie de série avec la fabrication de machines à coudre. Les deux grands biens destinés au grand public, ce sont ces deux objets. On peut ajouter la fabrication d'armes. Elles aussi devaient être fabriquées en série pour l'armée. C'est pour ça qu'on a à Saint-Étienne, par exemple, la manufacture des armes et cycles. Parce qu'en fait, c'est les mêmes savoir-faire nécessaires.
Manu France, par son catalogue, on était déjà dans le principe de la vente en ligne. Très belle couverture et puis présentation élaborée de toutes ces machines. Donc c'était un industriel comparé aux autres qui restaient des artisans. Oui.
Alors les rondelles, c'était vraiment la marque de Manu France.
Émilien Lefebvre, responsable de la collection Cycle du musée de Saint-Étienne.
De leur premier vélo, très tôt au XXe siècle jusqu'à leur fermeture, tous leurs modèles s'appelaient rondelles.
On sait à peu près ce que ça représente en termes d'employés sur Saint-Étienne, l'industrie du cycle.
La difficulté, c'est qu'il y a eu pendant longtemps aussi cette tradition de manufacture. Les employés ne travaillaient pas forcément dans le bâtiment, mais ils faisaient une partie de leur travail chez eux. Une forme d'ubérisation avant l'heure. Ils montaient les pièces directement chez eux, donc ça se faisait dans toutes les régions. Par exemple, en Franche-Comté, vous avez l'horlogerie qui faisait ça. En Normandie, je crois que vous aviez le textile, ça permettait notamment de lier plusieurs activités ensemble.
Dans la région de Saint-Étienne, il y avait plein de petits ateliers, de petits artisans.
Jacques Seret, historien du fait cycliste.
Si on regarde Saint-Étienne, on voit sa périphérie, on peut nommer plein de petites localités où on fabriquait des pièces qui étaient irriguées par le fameux Vélocio au cœur de la ville.
Vélocio, Paul de Vivy, lui-même travaillait dans le ruban, il a été à Coventry, il a vu cette industrie du cycle qui était déployée là-bas, très en avance par rapport à la France, et qui avait de l'importation. Est-ce que c'est pas lui aussi qui a incité le premier, les industriels de l'armement, à se convertir dans le cycle ?
Il a essayé, effectivement, il a fondé une revue qu'on appelle le cycle forésien. C'est dans cette revue donc, qu'il commentait un peu ce qui allait se faire dans l'industrie stéphanoise et qui distribuait les bons points ou les mauvais points. Pour moi, on peut appeler ça, pour relier un peu plus jeune, c'est un influenceur. Souvent même des marques lui envoyaient des machines pour qu'il puisse les tester, pour qu'il en dise du bien. Ou pas.
Vélocio, avant tout, c'est un philosophe, un homme de culture. Il s'est mis à devenir un peu marchand de vélo. En important des machines anglaises, mais commercialement, il n'avait pas beaucoup d'importance. Sa grande valeur, c'est la philosophie du cyclotourisme et l'apport du changement de vitesse. Quoi. La démonstration que tout un chacun peut grimper des cols comme les coureurs et en se fatiguant moins, il avait facilement à côté de chez lui le col du Grand Bois, proprement appelé col de la République, qui pouvait faire la démonstration. On partait de Saint-Étienne. On montait à 1200 mètres par là et on arrivait en bon état si on avait un changement de vitesse. Alors le changement de vitesse, c'est très complexe. On a commencé par retourner la roue arrière. Il y avait un pignon d'une certaine dimension, puis un autre, hop, qui permettait de grimper les côtes. Mais lui, il a dit non, on peut changer de développement en marche. Et il a trouvé des systèmes qui étaient archaïques, c'est vrai, parfois bichaînes, il y avait parfois deux chaînes. Mais qui était l'embryon du changement de vitesse. Et c'est ça sa force.
Là, nous sommes dans la salle qui présente Paul de Vivy, le cyclotourisme et le travail sur le changement de vitesse. Pour rendre le vélo utilisable par tout le monde, il va pousser l'industrie à inventer des systèmes de freinage et de changement de vitesse. Mais aussi, il y avait un petit côté Géo trouve tout, où il achetait différents modèles, il les démontait, il en remontait d'autres ensemble pour tester les différents systèmes. Il crée des parcours pour tester tel ou tel type d'innovation sur le vélo. Un parcours pour le frein, un parcours pour le changement de vitesse, et ça permet justement de distribuer les bons points de manière à peu près objective. Par exemple, là nous avons une bicyclette de la marque de Velocio, la gauloise, avec un changement qu'on appelle par chaîne flottante. Vous attrapiez la chaîne avec le bout des doigts et vous la décaliez pour changer de plateau. Et aussi très impressionnant, c'est la rétro-directe. Donc vous aviez tout un montage avec une seule chaîne et différents engrenages qui permettaient, quand on pédalait en avant, on allait vers l'avant avec une vitesse, et quand on pédalait vers l'arrière, on continuait à avancer avec une deuxième vitesse.
Bernard Chaussinant, ami du musée de Saint-Étienne.
Ça a été créé dans les années 1906-1907. Et ça va durer très longtemps au sein de la Maison Manu France.
Le Velocio était quelqu'un qui était très connu pour être très franc. Donc il s'est brouillé aussi avec beaucoup de personnes. Et donc il a utilisé son journal comme tribune. Et d'autres utilisaient d'autres journaux. Et notamment, il a été en duel pendant longtemps avec Henri Desgranges, créateur du Tour de France. Ils avaient tous les deux des logiques complètement différentes vis-à-vis du vélo. Le Velocio était plus dans l'idée de faire donc du vélo pour tous, que tout le monde puisse aller se balader vers l'extérieur, puisse voir la campagne, sortir de la ville, s'aérer les poumons, et aussi donc découvrir le patrimoine, et donc s'aérer l'esprit grâce à ça. Quand Henri Desgranges était beaucoup plus sur le côté, il faut réapprendre à souffrir, donc on va recréer des grandes compétitions, recréer des champions qui vont inspirer les Français.
Henri Desgranges, le créateur du Tour de France, il disait aux coureurs, mais vous êtes des hommes. Vous n'êtes pas des femmelettes, vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez grimper en force.
Mon directeur sportif m'annonce avec passion. 3 minutes d'avance, gamin, t'es un champion. 1, 2, 3 virages, dernière difficulté. Une bosse à 13%, et puis c'est l'arrivée.
Le dérailleur a été rapidement interdit par Henri Desgranges sur le Tour de France, puisqu'il considérait que c'était triché avec la route. Et donc il faut attendre 1937 pour voir vraiment le système de dérailleur arriver.
Il autorisait pour ceux qu'on appelait les isolés, parce qu'il y avait des grandes équipes, et ceux-ci devaient être tous équipés de la même façon. On ne trichait pas. Hein. Mais les isolés avaient le droit, sur certaines étapes, de pouvoir présenter leur changement de vitesse, ils en avaient un, et Panel, justement, fait la démonstration du sien. Et en plus, comme c'était quelqu'un qui avait la tête bien faite, il écrivait sur une revue stéphanoise, et tous les jours, il y avait l'étape d'un isolé. C'était lui qui racontait ça, toutes les étapes du Tour de France.
Depuis l'origine, le Tour de France est une fête du soleil. Une préfiguration des vacances populaires. Une fête qui possède avec le maillot jaune son héros solaire. Maillot jaune comme l'or, la fortune qui sourit aux audacieux. Jaune comme la moisson, comme le soleil de ces mois de juillet. Le leader de la course est un homme or, un homme soleil, au pouvoir fécondant. Le Tour de France, fête gratuite, qui passe près de chez soi, met la France entière sur le pas de la porte. Il forme une période utopique, héroïque, qui échappe aux contraintes sociales. La rue, espace populaire, devient la route ouverte. Philippe Gaborio.
C'est un événement qui est considéré vraiment comme la fête du vélo et qui fédère presque toute la France entière.
Oui. Mais ça s'est fait progressivement, puisque les deux premières années se sont plus ou moins bien passés. Desgranges restait dans la logique du passé, où il fallait faire des étapes de 400, 450 kilomètres pour démontrer que le vélo faisait bien. Ce qui fait que le Tour de France n'avait que 6 étapes, dont la première Paris-Lyon, 450 kilomètres carrément, quoi. Mais ce qui est mal connu aussi, c'est qu'il y avait des jours de repos, des fois 3-4 jours. Et au point que des grands ont été obligés d'interdire à ces coureurs de courir entre les deux étapes parce qu'ils auraient peut-être fait des cachets sur des vélodromes.
La compétition a toujours été liée à l'industrie du vélo, puisque c'était une vitrine. Dès la fin du 19e siècle, on va voir arriver des courses sur piste en extérieur. Puis on a commencé à faire des pistes utilisables en hiver, donc les fameux vels d'Yves, vélodromes d'hiver. Donc chaque grande ville en avait un. Par la piste est venue la professionnalisation du sport cycliste, puisqu'on avait des compétitions très régulièrement. Donc ça permettait à des ouvriers, à des gens avec peu de moyens, qui, par leur passion, allaient faire des grandes courses. Ils faisaient une course dans une ville, puis dans une autre, et ainsi de suite. Et donc ils touchaient soit la récompense, soit les paris. Et donc ces vélodromes étaient à la fois des salles pour ces courses-là, mais aussi des salles polyvalentes et des lieux de sociabilisation. Parce que souvent, vous aviez un restaurant au milieu pour la bourgeoisie qui venait manger en ayant les coureurs qui tournaient autour. Et sur le tour, vous aviez plutôt le côté prolétaire, donc des gens qui venaient parier, qui venaient crier, applaudir, et ainsi de suite.
Avec une épreuve phare qui s'appelait l'épreuve des 6 jours. Donc 6 jours, jour et nuit, hein. Enfin, la nuit, ils y allaient mollo.
Vous aviez souvent des petits cabanons pour que les coureurs puissent se reposer et se laver et grignoter avant de repartir. Donc le but était de faire le maximum de tours dans le temps imparti.
Ce serait peut-être bien de citer les grandes sociétés stéphanoises. Bon, ok, Manu France, mais il y avait aussi Automoto, Rava, qui était un petit peu au-dessus du lot. Et ces gens-là se servaient des compétiteurs cyclistes pour promouvoir leurs machines, notamment au Tour de France. Automoto, c'est tout simplement la meilleure équipe du monde dans les années 1925. Ils vont remporter 4 Tours de France d'affilée avec des internationaux, belges ou italiens, et un championnat du monde. Enfin, Royal Fabrique, mais enfin à un degré moindre. Puis bien sûr Mercier, qui était là pendant un demi-siècle, vous vous rendez compte, un demi-siècle. Bon, après, ils ont eu les sponsors qui sont venus s'ajouter. Et donc, le poids du constructeur du cycle va aller en s'amenuisant. Hein.
Effectivement, on va avoir ces grandes marques, ces grands noms qui sont souvent connus, mais qui souvent, d'une certaine manière, vont arriver en bout de chaîne. Puisque vous aviez tout un univers de fabricants de toute taille pour fabriquer toutes les pièces détachées. Et vous aviez ces grands monteurs qui arrivaient à la fin pour faire la bicyclette finie. Toutes les grandes villes avaient aussi leur industrie. On peut voir Terreau, Simplex, c'était Dijon. Sur Paris, vous aviez Griffon. Bah, Peugeot pour le côté Franche-Comté.
Toutes les bicyclettes françaises ne sortaient pas de Saint-Étienne, mais pratiquement aucune ne sortait sans avoir des pièces fabriquées à Saint-Étienne.
Je suis Alexandre Scherati, je suis géographe spécialisé sur les transports et la transition écologique. Alors, le prix du vélo, il est divisé par 10 entre le début du XXe siècle et les années 30. Et ça permet à toute la France de s'équiper avec la bicyclette, donc à la fois les ouvriers en ville, mais aussi les paysans à la campagne, et donc de permettre un décuplement des distances parcourues pour aller travailler, pour aller faire ses loisirs.
On a énormément de gens à vélo, on a les commerçants, les artisans ont tous un triporteur.
Frédéric Errand, urbaniste, économiste des transports.
Il y avait à peu près 9 millions de bicyclettes, dont on est à peu près sûr qu'elles étaient vraiment utilisées, parce que comme elles étaient encore assez chères, on achetait un vélo pour vraiment l'utiliser, pour 40 millions de Français avant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui veut dire qu'il y avait à peu près un vélo par famille. Souvent le chef de famille, hein, faut bien le dire. Mais on avait aussi déjà pas mal de femmes à vélo, notamment parce que pendant l'entre-deux-guerres, on l'a un peu oublié, mais elles travaillaient beaucoup, bien plus qu'après la Seconde Guerre mondiale. Le vélo devient très vite, hein, dans l'entre-deux-guerres, le symbole de la liberté de circulation. Il est dominant dans le trafic. Il faut comprendre qu'en ville, les voitures se traînent derrière, sont obligées d'aller au rythme des vélos qui occupent l'essentiel de la chaussée.
Je m'appelle Larry Flette, je suis un ancien cycliste de Paris. C'était la belle époque en 1930. Il y avait un peu moins de voitures, il y avait encore des fiacres. Il y avait un tas d'autobus qui s'appelait les Deux Lions-Boutons.
On ne peut pas vraiment rouler à la vitesse qu'on veut en voiture, en ville, à cause des hordes de cyclistes qui encombrent les rues. On a des embouteillages cyclistes, notamment sur les ponts, qui sont des goulots d'étranglement et qui sont noirs de cyclistes allant dans les usines. C'est le cas du pont de Beson, qui a été raconté par plusieurs chroniqueurs de l'époque. On explique que les embouteillages de cyclistes sont récurrents et ça a duré jusqu'à la fin des années 50. Et même encore plus tard dans d'autres lieux, notamment dans les villes ouvrières, comme Saint-Nazaire, Roubaix, ou Grenoble. J'ai encore un oncle qui a plus de 80 ans et qui m'a expliqué que la sortie des usines Merlin-Gérin au début des années 60 à Grenoble était noire de cyclistes. Et il y avait quelques malheureux automobilistes qui essayaient de se frayer un chemin dans cette marée de vélos et qui se faisaient engueuler par les cyclistes parce qu'ils gênaient tout le monde, évidemment.
Du coup, les ouvriers, le dimanche, quand ils ne travaillent pas, ils ont quand même cette bicyclette-là. Ça leur permet aussi de partir à la campagne, d'aller faire des tours, d'aller camper également. Pour faire du vélo, il faut du temps et de l'argent. Et à l'époque, les travailleurs français ont uniquement le dimanche pour en faire. Et ils n'ont pas forcément les moyens d'aller dans une hôtellerie qui est plutôt réservée à une élite. Dans les années 20, se développe quelque chose qui vient d'Angleterre, qui est le camping. Beaucoup de Français vont s'équiper en tente, en matériel de bivouac, pour pouvoir partir et pouvoir dormir une nuit dehors, ce qu'ils n'ont presque jamais fait de leur vie, ne pouvant pas se payer d'hôtel. Et donc, faire des randonnées cyclistes sur au moins deux jours. Donc on voit notamment pendant la Semaine Sainte, les vacances de Pâques, avant l'apparition des congés payés, là, il y a des milliers de cyclistes sur les routes qui vont vaquer à leurs occupations. Ensuite, pour faciliter l'accès à un tourisme de masse sous le Front Populaire, vont être créées les auberges de jeunesse. Et donc, il va y avoir un réseau national qui va permettre à des jeunes, et des moins jeunes aussi, de trouver des hébergements à des tarifs réduits et de pouvoir partir en vacances réellement, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant pour des questions de moyens.
Souvenir de 1936.
Les gens ont commencé à voyager. Et puis alors, les jeunes, ce qu'ils ont fait, c'est tout de suite prendre des vélos.
Alors, les premiers 15 jours de vacances que j'ai eu payés, je me suis acheté un vélo. Je crois bien que je l'ai acheté 750 francs. Mon père a été à Paris à la fabrique, à pied, et il est revenu avec le vélo. Vous voyez ? Et quand il m'a amené le vélo, c'était un Laetitia, je lui dis la marque. J'étais heureuse. J'ai fait tout le tour, au moins trois fois le tour de Cachan en vélo. Il y a pas de voiture. Hein.
Là, nous avons un tandem hirondelle. Plus là, on voit un bricolage avec un panier, sûrement pour attacher l'enfant du couple. Donc vraiment, le tandem, c'est l'imaginaire du vélo familial des vacances. Et on va vraiment voir le couple père-mère s'individualiser dans la famille. Nous avons aussi un tandem dernier, donc motorisé. On sait que ça servait notamment à la famille pour aller au jardin d'ouvriers le week-end. Donc avant que le père ait le permis et la voiture, il avait son tandem et la remorque pour les enfants.
C'est vrai que on allait avec mes parents en vacances à vélo, chez les grands-parents dans le Morvan. On partait de chez nous, ouais, pour faire les 300 km, chaque jour 100 km.
Jean Chaumien, fondateur de la FUB.
Oh, y a des orages mémorables qui me sont restés en mémoire. Bon, c'était. Et puis, au début, mon frère était dans un panier sur le vélo de mon père. Et puis, finalement, il a aussi eu son vélo. Et voilà, ça a été épique. Mais bon, c'est vrai que j'ai roulé ensuite, pour mon adolescence, j'ai roulé. Mais bon, de manière utilitaire.
Je suis d'origine italienne. Et l'Hérital est un livre qui m'a aussi donné envie de faire du vélo. Cavana, il a 14 ans. Il y a un livre qui est extrêmement populaire à l'époque, qui s'appelle Le Tour de France par deux enfants, qui est publié à la fin du 19e siècle, mais qui continue encore à beaucoup se vendre. Et il y a cet imaginaire que pour être un bon Français et un bon petit patriote, il faut connaître son pays, il faut faire le tour de son pays. Et donc, Cavana, ni une ni deux, il va fuguer à l'âge de 14 ans avec son petit vélo, et il va décider d'aller jusque dans le sud de la France, en tout cas le plus au sud où il peut aller. Il va s'arrêter dans le Massif central, complètement glacé, après avoir eu très faim. Il va se retrouver à manger des épluchures de pommes de terre. Et ça va être une première aventure cycliste qu'il raconte dans l'Hérital. Et au moment de l'arrivée des Allemands à Paris, quelques années plus tard, en juin 40, Cavanna, il va suivre ce mouvement de millions de personnes sur la route qui va être l'exode. Et il est employé des postes à l'époque, et la consigne pour ces employés des postes est d'essayer de se replier le plus vite possible à Bordeaux.
Les trois premières fois, les copains m'ont attendu, de moins en moins de bon cœur. Merde, quelle idée aussi de prendre un vélo de course pour un voyage pareil. Avoue que t'es pas normal, franchement. Comme si j'avais choisi, moi. Je m'amène bosser sur mon vélo comme tous les jours, on me dit vous partez en autocar. Total, je me retrouve en enfer avec entre les cuisses un bijou à boyaux de soie. La quatrième fois, ils ont mis les bouts, les potes. Ils ont fait ce qu'on n'a pas vu. Et moi qui découds, vas-y, que je te découse. Et merde, cette fois j'ai dans le cul. Une déchirure de 10 cm dans la chambre. Imbaisable. J'avais un boyau de rechange, ficelé sous la selle. C'est même lui que j'ai mis à la place de l'autre la première crevaison. Mais il était pourri. La deuxième crevaison a eu lieu 100 mètres plus loin. Que voulez-vous ? J'ai eu déjà bien du mal à payer le vélo. J'avais plus un rond pour les boyaux. Et voilà que j'aperçois dans le fossé un vélo cassé, la roue avant pliée en deux, abandonnée là. Aubaine. C'est un vieux clou rouillé à pneus demi-ballon. Je démonte vite fait la roue arrière, je la monte sur le mien, à la place de ma roue avant inutilisable. Le gros pneu ballon passe tout juste dans la fourchette droite. Même il frotte un peu. La roue est voilée, mais bon, je peux rouler. J'attache ma précieuse roue Dural sur ma valise, je hisse le tout sur mon dos, et voilà notre héros en route vers de nouvelles aventures. Cavanna, les Ruskov.
Avec son petit vélo Reynolds, qui est vraiment un vélo fait pour la vitesse, il va se retrouver sur les routes de France qui sont encombrées de voitures, de chars, de véhicules militaires. Il va slalomer entre ces véhicules pour traverser la France et se rendre dans le sud et en zone libre.
Est-ce qu'on n'imagine pas, vous écrivez qu'il y a 8 millions de Français donc entre mai et juin 40 sur les routes, dont 2 millions de Parisiens. Et c'est les deux tiers de la population parisienne.
Les Allemands arrivent aux portes de Paris et il s'agit de fuir le plus rapidement possible. Alors les gens qui ont une automobile sont relativement rares et on va se rendre compte que la bicyclette, c'est un moyen assez efficace de partir assez rapidement de la capitale. Et donc elles vont commencer à s'échanger sur le marché noir et le prix va être multiplié par 20. En l'espace de quelques jours, les bicyclettes vont s'échanger sur le marché. Il va y avoir évidemment beaucoup de bicyclettes qui vont être volées. Ça va devenir un bien très très cher et très très rare pour... passer en zone libre. Ça s'est passé sur l'espace de quelques jours à peine, parce que finalement assez rapidement, la capitulation est signée, et du coup les Parisiens à l'été 40 remontent très rapidement à Paris. Et voilà, c'est un épisode particulièrement marquant de l'histoire du vélo, plus en particulier.
On peut parler du vélo pendant la guerre, il était roi, mais avec des soucis. Je me souviens de mon père qui n'avait plus de pneus. Et l'astuce, c'était de faire des bandages à ressort autour des jantes, le vélo devenait roi, il devenait rare, cher.
Les bicyclettes ont commencé à disparaître tout de suite après 1939, en 40. Elles ont disparu complètement parce que là, c'était la réquisition totale des bicyclettes. Et en plus de ça, ceux qui en avaient une, ils la gardaient précieusement dans son grenier ou dans son placard. Parce que chaque fois que vous alliez enfin, au ravitaillement, comme on appelait ça, il y avait toujours un gars pour vous arrêter, vous la piquez. Puis alors après, il y a eu la clandestinité des vélos. C'est-à-dire, c'est venu en 42, 3, 4, là. Là, alors, c'était le vélo clandestin, là. Les gars qui faisaient des vélos, ils étaient tellement... bon, ils paient.
Simone de Beauvoir, elle est connue pour être une randonneuse. C'est une force de la nature. Elle est capable de faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour en montagne. Et elle va avoir un discours aussi féministe sur ce sujet. Ce qu'on ignore, c'est qu'elle a aussi beaucoup fait de vélo, et notamment pendant l'occupation. Décrivant un ennui total à Paris, un couvre-feu, elle va décider de partir l'été. Elle commence à partir seule la première fois, et puis quand Sartre rentre d'Allemagne, ils vont décider pendant 4 ans, jusqu'en 44, de partir tous les étés et de faire un mois à deux mois de randonnée cycliste. Alors au début, ils ont une excuse, on pourrait dire, c'est de mobiliser un réseau d'intellectuels résistants. Donc ils vont voir Malraux, ils vont voir Gide dans le sud de la France. Et puis finalement, ils abandonnent assez rapidement ce prétexte-là et ils vont juste aller s'aérer pour fuir le couvre-feu parisien, le manque de culture. Ils vont aller directement à la rencontre de la population française. Pendant ces étés, ils vont faire à chaque fois plus de 1000 km à vélo. Ils vont faire à peu près 5000 km à vélo en l'espace de 4 ans. Ils vont sillonner toute la France libre, donc ils passent clandestinement en zone libre. Ils prennent le train jusqu'à la frontière, et puis ils passent avec des passeurs. Apparemment, c'est assez facile de passer en zone libre. Ils font leur tour de vélo, et à la fin, pareil, ils repassent en zone occupée, et ils reprennent le train pour rentrer à Paris. Et ça, Simone de Beauvoir le raconte dans ses mémoires. Elle raconte aussi, et ça fait sourire, qu'elle était devant et que Sartre était en train de pédaler avec grande difficulté derrière. Et ce que dira Simone de Beauvoir dans ses mémoires, c'est que finalement, s'ils avaient pu faire ce tour en automobile ou en motocyclette, ils l'auraient largement fait.
Une des spécificités françaises, c'est l'essor du deux-roues motorisé. La France est le pays d'Europe qui a le plus développé cette solution intermédiaire, on pourrait dire, entre le vélo et la voiture. Et ce deux-roues motorisé, il a été encouragé par trois innovations, le Solex, la Mobilette et le Peugeot. Ces trois modèles, inventés successivement en 1946, 49 et 56, ont raflé l'essentiel du marché des deux-roues motorisés, et les constructeurs de ces véhicules ont sciemment ciblé les cyclistes. Le slogan de Solex, c'était « la bicyclette qui roule toute seule ». Il faut comprendre qu'après-guerre, la motorisation est considérée comme un bienfait, comme une manière de se libérer de la fatigue de la marche et du pédalage. C'est la modernité. Ça va donc être encouragé par les pouvoirs publics, mais qui découvrent très vite que c'est quand même dangereux. Car si vous roulez vite, sans casque, sans limite d'âge, c'est à vos risques et périls, vous pouvez en mourir. On a même une année, 1960, où on a 2500 morts en deux-roues motorisées, soit plus cette année-là qu'en voiture. Les autorités ne vont que très mollement réglementer cet usage. Parce que l'industrie du cyclomoteur en France est triomphante. Elle a conquis le marché mondial. La France est même devenue le premier constructeur mondial de deux-roues motorisées entre 1954 et 1960. Et on a une statistique en 1978 qui le prouve. Nous sommes le seul pays d'Europe à cette époque à avoir plus d'usagers en deux-roues motorisées qu'à vélo.
Et les ouvriers vont peu à peu laisser tomber le vélo pour se mettre à l'automobile, qui permet d'aller plus loin, qui permet aussi d'aller vivre plus loin. Et c'est la naissance des banlieues, des lotissements pavillonnaires et de l'aménagement du territoire tel qu'on le voit aujourd'hui. Et cette croissance des distances et cette augmentation de la vitesse, elle va créer un sentiment d'insécurité assez fort chez les cyclistes. Au début des années 50, il représente un tiers des tués sur la route, ce qui, par rapport au nombre de cyclistes à l'époque, est un chiffre assez important. On voit un vrai changement culturel aussi. La bicyclette devient vraiment un objet dépassé. La modernité, c'est l'automobile, et uniquement l'automobile.
Ensuite, il faut également évacuer ces cyclistes qui gênent, d'où des aménagements cyclables. On va en faire en France, mais pas tellement. Pourquoi ? Parce que la France bénéficie d'un réseau de petites routes extraordinaires, uniques au monde, dont nous n'avons pas conscience, plus d'un million de kilomètres, construits au XIXe siècle pour désenclaver les régions les plus isolées. Ce réseau de petites routes va servir, disons, de prétexte à ne pas faire tellement d'aménagements cyclables. Alors qu'aux Pays-Bas, en Allemagne, on n'a pas ce réseau de petites routes, et donc on va construire beaucoup plus d'aménagements cyclables pour pouvoir, encore une fois, chasser les cyclistes de la chaussée.
C'est ce qu'on appelle l'époque de la motorisation.
Jacques Serret.
Les gens arrivaient à s'acheter une voiture, souvent d'occasion, qu'ils rafistolaient. Mon père faisait ça aussi. Des Juva 4 de chez Renault qui étaient de très mauvaise qualité. Je me souviens, j'étais à l'arrière, un gamin, j'avais 9-10 ans, on a perdu une roue à pleine vitesse, parce que ce qu'on appelle la fusée arrière, elle avait cassé. Alors je me souviens d'avoir vu la roue passer devant, et avant que la voiture s'effondre, je me suis dit, tiens, il y en a un qui perd sa roue. C'était nous.
La voiture va peu à peu faire la place, on va l'autoriser à rouler de plus en plus vite, et puis elle va aussi stationner peu à peu sur l'espace public, alors que c'était totalement interdit, j'ai bien dit, totalement interdit. Du temps des voitures à cheval, il n'était pas question de stationner sa voiture à cheval la nuit le long du trottoir. Il fallait avoir une écurie et c'était, vous étiez verbalisé si vous laissiez une voiture à cheval. Et peu à peu, le nombre de voitures croissant, on a toléré ce stationnement le long des trottoirs. C'est rentré dans la loi, cette tolérance, en 1928 notamment. Et dans les années 60, toutes les voitures dans les grandes villes stationnent absolument partout, n'importe où, sur les trottoirs, sur les places. Tout l'espace, quand je dis tout l'espace, c'est vraiment tout l'espace, est totalement accaparé par la voiture.
Citroën, Renault lancent des modèles de voitures très populaires. Alors, je crois, multiplication par 6 en 20 ans du nombre d'automobiles. Il y en a 13,7 millions en 1970. Et vous, vous avez vu ce virage-là, les rues se vider un petit peu des vélos et...
Oui, le sport était privilégié plutôt que la pratique quotidienne du vélo.
Il y a deux types de personnes qui vont continuer à faire du vélo, c'est les plus pauvres ou c'est ce qu'on pourrait appeler les fous. C'est ceux qui cultivent en fait une certaine idée de la lenteur et qui, tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, vont commencer tout doucement à développer une culture alternative à cette culture de masse qu'est l'automobile. On va retrouver un petit peu plus tard, dans les années 70, avec tous les mouvements populaires qui vont commencer à défendre l'écologie à travers la pratique de la bicyclette.
Il m'arrivait d'aller travailler à vélo dans Paris. J'avais pas tellement de concurrents. Il y avait les porteurs de journaux qui existaient encore. Mais le vélo utilitaire était dans le creux dans ce moment-là. Et on a privilégié le vélo sportif ou le cyclotourisme de fond, comme j'en faisais.
Le grand paradoxe, c'est qu'à ce moment-là, le Tour de France va devenir l'événement sportif roi, bien avant le football.
Il y a tout de suite, dès le début de l'invention du vélocipède, il y a deux cultures parallèles qui parfois ont des zones de porosité mais qui vraiment sont totalement indépendantes. Le vélo comme instrument de déplacement ou comme instrument de voyage d'une part et le vélo comme instrument sportif d'autre part. Et ces deux cultures qui vont avoir du mal à communiquer, on s'en rend compte au cours des années 50 où la bicyclette comme instrument de déplacement populaire disparaît au fur et à mesure alors que le Tour de France émerge comme l'événement roi en France où il y a des millions de personnes qui se regroupent sur les routes au mois de juillet et qui vont venir supporter et aduler des coureurs cyclistes, les Anquetil, les Poulidor, datent de cette époque-là.
Je vous parle en direct de cette 17e étape du Tour de France. Le peloton, énorme machine de muscles et d'acier, vient de s'élancer. Monter en danseuse, appuyer sur la pédale, surveiller son braquet, que d'épreuves pour ces jeunes hommes qui, en attendant l'auréole de la victoire, se contentent de celle de la sueur qui laisse dans son sillage ce trait de musc que connaissent bien les supporters massés le long des routes. Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin.
Les gens nés en 34 comme mes parents vont vous dire « Ah, le Gaulois qui ressoute sa fourche sur un vélo. »
Jean-Louis Fréchin.
Alcyon, des marques complètement disparues. Moi, qui suis un années 60, c'est Mercier, c'est Peugeot, c'est Gitane, c'est ces marques-là. Pour moi, c'est ça les marques du Tour de France. Et même si, très vite, les vélos du Tour de France, pour moi, mon frère, mes amis, étaient des vélos ringards. Les vélos qui, pour nous, étaient les vélos les plus à la mode, c'était les vélos de cross, les vélos qu'on... On disait pas customisés à l'époque, mais les vélos qu'on modifiait pour aller rouler dans les bois et faire des bêtises. Donc c'était n'importe quel vélo, ou des vieux Solex, on enlevait le moteur, et on inventait des machines pour faire des choses... Enfin, le mountain bike, c'est ça. On dit les Américains inventaient le mountain bike. On va dire que les industriels français n'ont pas su regarder ce que des jeunes ados ou pré-ados des années 70 faisaient de leur vélo pour aller rouler dans les bois. Donc, les gitanes Mercier que j'ai ici, je les vénère, mais quand j'étais ado, pour moi, c'était le summum du ringard, quoi.
1986.
Il va bientôt envahir les abords des lycées et des collèges. Il va aussi sans doute pétarader dans les sous-bois et devenir la terreur des écureuils
ou
des passants. Eh ben, il, c'est la prochaine coqueluche des adolescents, le nouveau cyclomoteur de Peugeot. On ne peut pas mieux le décrire qu'en le comparant à un vélo bicross, vous savez, le vélo du héros du film E.T. par
Je
exemple.
Vois bien, oui.
Mais un bicross à moteur, donc un moteur de 49 cm3, que l'on peut donc conduire sur route ou dans les chemins à partir de 14 ans. Alors parents, attention, parce qu'en cas de réussite aux examens, vos enfants risquent de vous demander de changer leur bicross pour ce country, justement. William Desazard, le vice-président des cycles Peugeot, nous explique l'intérêt de cet engin.
Nous avons pensé qu'il fallait un cyclomoteur qui réponde à l'angoisse des parents. C'est-à-dire oui. qu'il faut sortir de la circulation et il faut aller se promener là où il n'y a pas de circulation, c'est-à-dire dans les bois, dans les prés, en tout terrain. Et c'est ce que nous faisons avec ce cyclocross qui s'appelle Country.
Alors on peut dire que ça risque de polluer les sous-bois, non ?
S'il y a une forte pollution, ça veut dire qu'on va en vendre beaucoup.
Donc voilà, on est dans la grande époque là, du tout bagnole et du tout vélomoteur. Donc c'est à ce moment-là, bon, on a une situation des transports publics qui se dégrade, des nombreuses autoroutes en limite de centre-ville, des pénétrantes à l'intérieur des villes, des parkings un peu de partout. Et c'est, on peut dire, à peu près la fin du vélo utilitaire en France, en tout cas, pour quelques décennies.
La pratique a été à peu près divisée par 6 en 25 ans. Entre 1950, on a des chiffres à partir de 1950, et 1975. Comparativement, en Allemagne, la chute a été bien moindre parce qu'il n'y a pas eu de développement débridé, si je puis dire, du deux-roues motorisé. La pratique n'a été divisée que par 3 en Allemagne, à peu près autant aux Pays-Bas, y compris aux Pays-Bas, une pratique du vélo divisée par 3. Si elle a été aussi rapide en France, c'est d'abord à cause du deux-roues motorisé, mais aussi du fait que nous avons une industrie automobile qui a construit très vite de petits véhicules pas chers, comme la 2 chevaux, la 4 chevaux, puis la 4L. Ces petits véhicules se sont vendus comme des petits pains. Mais les Pays-Bas se sont aussi mis un jour à fabriquer des petites voitures à partir du début des années 60. Et alors, à ce moment-là, les Pays-Bas ont connu la même chute vertigineuse du vélo que nous, mais de façon décalée de plusieurs années par rapport à nous. Et c'est pour ça qu'en 75, ils avaient encore pas mal de cyclistes et nous, déjà, presque plus. Autrement dit, ça a tenu à pas grand-chose. Le fait qu'aux Pays-Bas, il y a encore du vélo aujourd'hui et que chez nous, il y en ait si peu. Si la crise de l'énergie était arrivée 10 ans plus tôt, par exemple, le monde aurait été profondément changé, quoi.
J'avais le choix d'aller à l'école en vélo, je suis allé en vélo, mais quand j'ai eu 14 ans, j'ai demandé une mobylette, un 103, j'ai eu un 103, parce que la modernité, c'était ça. Les publicités de l'époque étaient vraiment l'émancipation d'une jeunesse qui avait envie d'autre chose. Voilà, avec un moteur, on va plus loin, forcément. C'est la fin des 30 Glorieuses, c'est finalement l'installation en France de la société de consommation américaine, hein. Baudrillard en a bien parlé. Donc voilà, c'était un peu inéluctable. Le vélo n'aurait pas pu perdurer, ou alors il aurait fallu être un peu plus radical, un peu plus moderne. Jean-Louis Fréchin, je suis designer et architecte. Je dirige une agence qui s'appelle Le Design. On s'intéresse à plein de choses, beaucoup de choses modernes, comme le numérique, et puis des choses modernes à nouveau, comme le vélo.
Le vélo a ouvert la voie à l'automobile, c'est incontestable. Tant sur le plan industriel, de l'industrialisation des pièces, de la production en série, de l'ingénierie nécessaire pour mettre au point ces objets techniques sophistiqués, que pour les routes, les cyclistes avaient besoin d'un bon revêtement, les automobilistes aussi. Les cartes routières sont nées avec des exigences des cyclistes et se sont adaptées ensuite à celles des automobilistes. Le réseau des garages également. Tout cet univers a été simplement reproduit pour la voiture. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a le phénomène inverse. Par exemple, le développement des batteries, qui s'est fait d'abord pour la voiture, aide finalement beaucoup plus les cyclistes à électrifier leur vélo que les voitures. Il y a en gros 4 fois plus de vélos assistance électrique aujourd'hui que de voitures électriques en France.
Le drame du vélo en France a commencé à la fin des années 70, durant toutes les années 80, ça a été un long déclin. C'est plusieurs causes. Le premier, c'est un morcellement absolu. Il y avait un grand fabricant de vélos par région. Ces gens-là ne se parlaient pas. Dans une même région, ils n'étaient pas en coopération. C'est Émile Mercier, à la fin de sa vie, l'entreprise n'avait pas disparu encore, qui dit « Nous aurions dû faire des coalitions, nous aurions dû être ensemble ». Fin des années 70, Les industriels de Saint-Étienne se félicitent d'avoir acheté des machines à polir pour les manivelles et les accessoires de vélo. Avant, c'était des femmes de mineurs qu'ils faisaient à la maison le soir, après le travail. En même temps, Shimano arrive sur le marché français avec des pièces en aluminium anodisées. Donc le retard il était de 10 ans et à des prix compétitifs. Le problème a commencé comme ça. Et puis, les années 70-80, c'est un basculement de la production et la récompense en juste mesure. Grosso modo, c'est le modèle fordiste. Les ouvriers achètent ce qu'ils fabriquent avec l'argent qu'ils gagnent. Donc les ouvriers de Mercier achètent un vélo Mercier avec l'argent qu'ils gagnent en fabriquant des vélos chez Mercier ou chez les concurrents. On est passé au modèle du pouvoir d'achat. Donc on a décorrélé la fabrication et les contextes avec non plus un pouvoir de vie ou la célébration du travail, mais le pouvoir d'achat. C'est-à-dire on vit pour consommer. Carrefour arrive et met une pression absolument terrible vers la nouvelle société des cycles Mercier, qui avait déjà déposé le bilan, France Loire. Tout est tiré vers le bas, les prix. Et contre les Asiatiques, les prix, on ne peut pas gagner.
Le dérapage des cycles Mercier, l'un des plus prestigieux fabricants de vélos en France, est en règlement judiciaire. L'entreprise de Saint-Étienne, qui emploie 160 personnes, a dû déposer son bilan. Sous le maillot Mercier, les plus grands noms du cyclisme s'étaient illustrés dans le passé, comme Fred De Bruyne, Van Steenbergen et plus récemment le populaire Raymond Poulidor. Il y aura l'an prochain un Tour de France féminin. La Fédération française a déjà donné son aval. Et si tout va bien, le projet deviendra réalité pour l'été 84. Ce tour se courra donc en même temps et sur le même parcours que le tour réservé aux hommes.
Donc là, nous sommes devant le mur qui présente différents modèles de cadres de la marque Vitus, des établissements des ateliers de la Rive, qui fait partie des dernières grandes marques stéphanoises, donc qui va s'arrêter plus dans les années 90. Donc au départ, c'était une entreprise qui fabriquait surtout des tubes pour l'industrie. Après, ils vendaient les cadres à d'autres entreprises qui faisaient le montage. Par exemple, Mercier. Donc ils ont révolutionné les matériaux. C'est là, eux, qui vont sortir le Duralinox, donc un alliage d'aluminium et d'inox, beaucoup plus léger que l'acier. Et aussi, donc, ils vont révolutionner la technique de montage. Où là, ça va être les raccords qui vont rentrer dans les tubes avec une colle prévue à cet effet. Mais donc les années 80, ça va être une décennie de révolution. Vitus va aussi sortir les cadres en carbone, donc continuer à léger de plus en plus pour la compétition de haut niveau. Ils vont créer aussi des cadres moulés en carbone, donc en une seule pièce, ce qui rend le vélo très cher puisque vous êtes obligé de faire des moules par taille. Donc cette mode du tout aérodynamique arrive dans les années 80, notamment amenée par les Japonais de Shimano. Vitus, au début, va ne pas réussir à utiliser le Duralinox en profilé. Ils vont être obligés de repasser sur de l'acier. Et finalement, dans les années 90, avec le Duralinox, ils peuvent faire le 992, donc avec une forme profilée. Donc là, on va voir l'exemple du Mercier Formule 1. Donc il va être l'un des tout derniers modèles sortis par Mercier dans les années 84. Donc, on retrouve la couleur symbole de Mercier, le rose, tube Vitus et pièce Shimano. Et à côté, autre vélo en tube Vitus d'une personne très connue, donc Jenny Longo, qui a fait son record à Mexico sur piste en 1989.
Alors les vélos que j'ai ici, c'est le musée des drames industriels français, c'est-à-dire les derniers haut de gamme français de toutes les marques. Au mur là-bas, vous avez le Vitus 979 en alu, le vélo de Joachim Agostino et de Sean Kelly chez De Gribaldi. C'est un De Gribaldi. C'est un vélo en tube d'aluminium collé à des connecteurs en fonderie avec des cols époxy qui sont les cols de Concorde. Donc là, c'est vraiment la quintessence de l'innovation dans les années 70-80. Pour la petite histoire, la marque a été revendue et le type qui a racheté cette marque était un Stéphanois. Et à Saint-Étienne, c'est le ruban. Et donc, il a fait faire des rubans en Kevlar. Et puis, il est allé voir Ron Poulin qu'à Lyon, qui lui a donné de la résine époxy. Et ils ont inventé les vélos en carbone, tout tube collé. Là, on a un de mes préférés, qui est le Peugeot Pertus, qui était le vélo des amateurs de première catégorie, comme on disait quand j'étais môme. Et il est équipé en Mavic, quand Mavic faisait des dérailleurs, qui est un chef-d'œuvre d'intelligence. Sans moyens, ils ont fait un dérailleur extraordinaire. Donc, il est en tout Mavic et en tube anglais Reynolds très très fin. Là, on a son petit frère chez Gitane, Super Olympique, équipé en Campagnolo. Déjà, les matériels français n'étaient pas à la hauteur. C'est le premier modèle de Bernardino. D'ailleurs, une légende dit que c'est Bernard Carré qui a dessiné ces cadres Gitane Super Olympique, avec les pattes urées dites nid d'abeille. C'est une vraie pièce de design. Le Formule 1 de Mercier pour Carrefour, c'est le modèle le plus bas de gamme. Au-dessus, il y avait un modèle avec des tubes Vitus, beaucoup plus intéressant, et un modèle encore plus haut de gamme, brasé par Service Course, qui restait de Mercier, dont on a acheté un exemplaire avec le musée d'art d'industrie de Saint-Étienne, qui est Tous les cadreurs étaient fous devant ce vélo. Donc le savoir-faire, on l'avait. Mais ça, c'est vraiment la fin de Mercier, la fin de Vitus, la fin de Peugeot et la fin de Gitane avant le drame. Mais bon.
Quand les gens avaient les moyens de s'acheter un vélo haut de gamme, même si on avait des vélos de cette catégorie en France, ils pensaient tout de suite italien, donc avec Campagnolo et Colnago. Les Japonais aussi vont énormément faire de pièces moins chères avec Shimano par exemple. Et notamment les Américains ont lancé la mode du vélo un peu plus pour les jeunes, tout terrain, VTT, mountain bike et BMX. Et là les Français vont un peu louper le coche, et donc, par extension les Stéphanois. Donc là, petit à petit, on va avoir des entreprises qui vont faire des faillites à répétition. On est passé sur du vélo moins cher et de grande surface, comme on dit.
Une période, ça faisait pas classe de rouler en vélo. Donc.
D'autres industriels ont fait un petit peu différemment un peu après, comme Decathlon, qui s'est attelé à travailler avec des fabricants du Nord, les cycles Leu, pour avoir des vélos, oui, à des prix accessibles, en se faisant aider par cette entreprise-là, et donc en la modernisant, et puis des vélos haut de gamme, de course à des prix accessibles. Alors bien sûr, après Decathlon est parti en Asie, aujourd'hui ils sont revenus en Europe, Portugal notamment. C'est une question compliquée, parce que le pouvoir d'achat et les prix tirés, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, on ne sait pas en France en tout cas. Dans l'industrie du cycle moderne, trouver un vélo à 15 000 euros, ce n'est pas rare. Et il y a des marques qui osent. Chez nous, les Français, on ne sait pas. Il y a le luxe, qui sont des marques anciennes qui datent de l'époque des rois et des grands bourgeois. Et puis, il y a des produits pas chers pour servir le pouvoir d'achat. Entre les deux, le moyen, ça n'existe pas chez nous. Et toutes les marques moyennes, comme Bic, par exemple, dans le sport, les planches à voile, ont disparu. C'est comme ça, mais c'est dommage au pays du luxe de ne pas savoir faire des produits extrêmement haut de gamme, parce que c'est notre seule voie d'issue. Et un vélo, ce n'est pas un objet de consommation, c'est l'objet d'une vie. Mon père, dans sa vie, a eu 3 vélos. Son vélo d'ado, un vélo qui s'est acheté quand il a recommencé le vélo, et puis le vélo sur mesure avec lequel il a fait ses 2 Paris-Brest-Paris, point.
Donc Anne-Gaëlle Clos, je suis la directrice du Grand Plateau. Le Grand Plateau, c'est un tiers-lieu de production à destination des acteurs du vélo et des micro-mobilités. On est ici sur un site de 8000 m² en plein cœur de Villeurbanne, au Carré de Soie, sur la métropole de Lyon. Et on accueille déjà 19 entreprises qui produisent, assemblent, créent des solutions de mobilité active. In situ, on est à peu près une centaine de salariés déjà. Donc d'ici fin 2023, on souhaite accueillir une trentaine d'entreprises. On travaille main dans la main avec la métropole de Lyon. L'idée, c'est de venir rassembler et de faire en sorte que l'ensemble des acteurs se connaissent et créent ensemble les projets et les mobilités de demain. On a beaucoup d'entrepreneurs sur site. Il suffit juste de les réunir dans une pièce comme on a fait aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre des achats responsables. Je ne sais pas si vous entendez le bruit en fond, mais en tout cas, ça parle beaucoup. Et c'est comme ça que se créent les business et les projets coopératifs qu'on a vus sur ce site.
Au sein de ce grand plateau, il y a l'usine à vélo, qui est une coopérative d'assemblage de vélos principalement électriques, multimarque. La spécificité, c'est qu'on est une SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif, donc on a une gouvernance partagée et une lucrativité limitée.
Où vous êtes ?
Le gérant, Henri Roussel. Ça fait un an qu'on est vraiment en fonction, avec une dizaine de personnes aujourd'hui. Le constat qui a été fait des différentes marques, c'est que chacun avait besoin d'augmenter leur capacité de production et donc de passer, on va dire, d'une organisation un peu artisanale à quelque chose de plus semi-industriel. Et pour augmenter cette capacité de production et professionnaliser aussi la partie assemblage, ça faisait beaucoup de sens de partager un outil de production et les compétences qui vont derrière. Donc le bâtiment, il est sur 3 niveaux. Là, on est au premier niveau. On voit chaque entreprise a un box d'atelier. Bon, là, on a Vepli, on ne voit pas grand-chose, on en verra à l'usine. C'est du vélo pliant et une gamme de VTT. Afron Gaston, qui fait de la conversion de vélo musculaire en vélo électrique. Rutil, qui fait de la réparation de flotte de vélo, du reconditionnement. Cyclique, donc pareil, on verra les vélos en production. C'est un vélo qui a un cadre 100% végétal, donc avec du bambou en lamellé collé et des jonctions en fibre de lin, qui est assemblé à Chambéry, le cadre. Et on fait l'assemblage du vélo complet ici. B2E Bike qui fait de la flotte de vélos pour les collectivités ou les entreprises, avec à la fois la partie hardware, donc borne, vélo, et la partie soft, applicatif, pour faire la partie réservation, etc. Donc là, c'est Adbike qui fait des vélos long tail, donc transport d'enfants ou de marchandises, et des solutions aussi pour transformer un vélo classique en triporteur, en mettant une carry box devant.
Je m'appelle Renaud Collin. Donc là, à l'entrée de mon atelier, un vélo cargo à destination des familles qui est très orienté sur la sécurité, un vélo cargo destiné à un usage professionnel avec une grosse boîte à l'arrière. Ici, c'est la solution qui est à l'avant qui permet de transformer un vélo standard en vélo cargo. Et le dernier ici, qui permet de transformer un vélo normal en vélo stable pour des personnes en situation de handicap léger. C'est un tricycle, exactement. Tout le monde du vélo cargo, c'est un monde qui est assez récent et dans lequel il y a encore énormément de choses à innover. C'est une vieille solution qui revient. Donc c'est revenu par la Hollande, et donc ça fait des années qu'ils ont développé ça. L'Allemagne est beaucoup en avance. Les ordres de grandeur, aujourd'hui, l'Allemagne, ils vendent 160 000 vélos cargo par an. La France en vend 33 000. Par contre, ça grandit très très vite. Il y en avait 11 000 l'année d'avant. Le développement de l'assistance électrique permet de réduire l'utilisation de la voiture, donc ça c'est un point très positif. Après, on reste encore sur des problématiques de construction de batteries qui sont assez polluantes. Ça me permet de citer une entreprise française qui s'appelle Gouache, qui aujourd'hui récupère les batteries qui sont plus utilisables, qui les ouvre, et à l'intérieur, en fait, il récupère les cellules qui sont encore bonnes. Dans une batterie qu'on jette, il y a 10% des cellules qui sont plus bonnes, le reste sont encore très bonnes. Il les récupère et il les remet dans de nouvelles batteries, et c'est des solutions qui sont en train de se développer.
Donc là, on rentre dans l'usine à vélo. Donc on a toute une partie stockage physique des différents composants. Donc on monte une quinzaine de modèles différents. Donc ça fait plus de 1000 références à gérer. Donc on gère le stock physique, on gère l'assemblage pour le compte des marques et mise en carton, expédition.
Les trois quarts des pièces aujourd'hui, elles viennent toujours d'Asie ou il y a quand même un petit peu plus d'autonomie ?
Petit à petit, je pense qu'il y a en tout cas une volonté, une tendance de fond de vouloir s'approvisionner localement pour différentes raisons, pour sécuriser les approvisionnements et pas avoir une dépendance forte, pour aussi raccourcir les circuits logistiques et à la fois gagner en résilience, en réactivité, capter l'innovation au plus tôt aussi. Enfin, le dernier point, c'est pour tout ce qui est impact environnemental et responsabilité sociale des entreprises. Il n'y a pas de débat sur le fait que plus le fournisseur est proche, mieux c'est pour tout le monde. Par contre, tout ça, ça met du temps parce que autant peut-être 30 ans en arrière, notamment à Saint-Étienne, mais aussi dans d'autres régions, il y avait tout un savoir-faire sur les différents composants qui a été perdu. Et recréer tout ce savoir-faire, retrouver les entreprises, etc., ça prend du temps. On lance un projet justement de lancer une coopérative d'achat composants cycle, justement pour accompagner cette bascule-là. Aujourd'hui, tout ce qui est cadre en acier, par exemple, toutes les compétences sont à Taïwan et on ne sait plus faire en Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de nouveaux procédés qui arrivent sur de l'injection plastique, pour faire des cadres en injection plastique, pour faire des cadres en injection alu, etc. Après, on reste sur des volumes artisanaux, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi à d'autres endroits. Il y a c'est un métier qui revient à la mode et on voit que ça suscite les passions et il y a de plus en plus de projets de ce type-là.
On a tout un tas d'entrepreneurs qui essayent de recréer de la valeur en France. Alors, on commence toujours par les fulgurances et les niches. Ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le Made in France, c'est tous les artisans du site qui font des vélos sur mesure pour des gens dont les projets de vie, c'est le vélo pour aller travailler, pour se déplacer. Edelbike ou Mathieu Chollet de Pêche-Trégon ou Sifac qui font des vélos haut de gamme. C'est intéressant Sifac parce qu'ils existaient à l'époque de la glorieuse industrie du vélo en France. Et c'est grâce à cette entreprise qu'on a encore des cadreurs en France parce que tous les cadreurs sont plus ou moins passés chez Sifac à un moment ou à un autre. Donc cette entreprise, c'est le pivot du monde d'avant et du monde de demain. Et puis il y a des marques extraordinaires comme les Cycles Victoire qui font de l'artisanat. Alors Mathieu Chollet, qui est designer, qui lui est un inventeur incroyable. Il invente des fourches pour se passer de carbone. Il met du gaz dans les tubes pour pouvoir se faire un café le soir. Donc on est totalement autonome. C'est un artiste du métal avec des vélos incroyables. Et il y en a plein. Alors ceux-là, bien sûr, c'est des niches, mais pour construire un écosystème, il faut tout. Et il faut commencer par les pionniers. Ensuite, il y a les développeurs, ceux qui développent. On a encore quelques PME comme La Pierre, mais La Pierre appartient à un groupe étranger. On a des survivants comme Cycleurope, qui possède les marques Peugeot et Gitane, et qui ne refait pas les erreurs d'avant, donc ont vraiment des produits désirables. Peugeot, c'est une marque sur le bon coin. Les Peugeot, c'est tout de suite 50% plus cher que n'importe quelle autre marque de vélo. Et la marque, elle est encore gérée par la famille Peugeot, donc c'est très très bien géré. Gitane, avec des modèles extrêmement innovants, urbains, petits trous. Enfin bon, la manufacture française du cycle, qui est l'ancienne usine Gitane, qui appartient à Intersport et qui fait des vélos pour plein de marques et les vélos en location de la plupart des villes de France, etc. Mais qui a une marque haut de gamme en propre, qui est la marque Sun. Puis des choses moins spectaculaires, mais tout aussi importantes, comme une entreprise incroyable qui s'appelle Milk, qui est un peu une pouponnière à projet. Donc c'est l'usine où on vient commencer à fabriquer ces vélos en série.
On a vraiment tous les composants du vélo qui arrivent de manière éclatée. Une fois qu'on a fait les sous-ensembles, on arrive sur la zone qu'on appelle d'assemblage final. Aujourd'hui, il y a 8 postes où la personne va partir d'un cadre nu et assembler le vélo complet de A à Z.
Lionel, monteur cycle à l'usine à vélo depuis le 1er septembre dernier.
C'est une reconversion ?
Ouais. J'ai envie de faire un métier manuel, et comme je suis un passionné de cyclisme, j'ai fait une formation à l'INCM, l'Institut National du Cycle et du Motocycle, l'année dernière. À l'issue de cette formation, j'ai travaillé un mois chez Decathlon. Ensuite, j'ai fait une vacation sur les championnats de France de cyclisme féminin. Et ensuite, j'ai commencé à travailler à l'usine à vélo le 1er septembre 2022.
Et vous, qu'est-ce que vous appréciez ici, là, dans l'environnement de l'usine à vélo ?
Déjà, une bonne ambiance de travail. Et puis, là, surtout le fait de pouvoir travailler sur des vélos à assistance électrique.
Clément, et j'assemble des vélos. Il n'y a rien de compliqué.
Mais non, mais c'est accessible à tout le monde, regardez.
Là, je vais faire passer une gaine de frein à l'intérieur de ce petit tube, là. Nos amis chinois ont laissé un petit câble, vous voyez, à l'intérieur, qui nous permet en fait de faire passer, si ça fonctionne bien, de faire passer, ouais, hop, comme ça. C'est assez satisfaisant, on part de quelque chose qui ne roule pas à quelque chose qui roule.
C'est manuel quand même.
Typiquement, le passage que je viens de faire, une machine ne peut pas le faire.
On peut espérer que ça crée aussi de l'emploi, parce que ça demande justement une technicité.
Oui. Mais après aussi, il ne faut pas que ça fasse peur, puisque c'est à la portée de tout le monde, et donc... Tout le monde peut monter un vélo et entretenir aussi son vélo. C'est juste qu'il faut savoir.
Et avancer.
Michel est intéressant, Michel. Beaucoup d'années d'expérience dans le monde du vélo.
Ça fait 40 ans que je suis dedans.
Et comment vous voyez l'évolution justement alors du secteur ?
Aujourd'hui, c'est surtout le vélo électrique. C'est ce qui a sauvé le marché. J'aime tout dans le vélo, donc c'est une passion.
C'est un bel endroit.
Ouais, puis là, je pense que ça va se développer. L'idée est bonne en tout cas.
Vous travaillez plutôt debout, vous. On voit que certains sont assis, vous êtes plutôt debout, ça dépend l'endroit.
Bon, ça dépend des postes, ça dépend au bout d'un moment où je m'assois, si je suis fatigué, je ne sais pas. Voilà.
C'est pas très répétitif, parce que ce que je trouve bien, c'est que vous êtes sur des modèles toujours différents.
Ça change assez régulièrement, c'est ça qui est intéressant. Guillemette.
On les essaye tous. Comme ça, on est sûr que les vélos partent, ils sont bien réglés, il n'y a pas de souci. De toute façon, ce qui va faire la différence avec les autres, c'est la qualité. C'est la qualité.
Vous étiez dans une usine de quoi ?
Chimique, en Italie. Rien à voir.
Et pourquoi le vélo, alors ? Vous y êtes venu un peu ?
Moi, je suis passionné de vélo. C'est beaucoup moins dangereux. On utilise des outils très simples, des tournevis, des clés plats, les mains. On ne travaille pas la nuit. On n'a pas à quoi faire avec des grosses machines automatisées. On écoute de la musique tout le temps. C'est agréable. Je m'appelle Marco.
Et là, on se dit, ouais, on peut faire des choses en France. Et puis, ah, c'est le pays du Tour de France, peut-être, ça peut aider. C'est le pays du cyclotourisme, peut-être, ça peut aider. Je ne sais pas, mais le soft power autour d'une production en France, c'est important. Et réapprendre à faire des produits grand public qui plaisent, qui disent des choses et qui séduisent au-delà de nos frontières. C'est un vrai travail qu'on a à faire sur nous, parce que voilà, quand on fait pas de produits grand public, et ça vaut dans tous les secteurs pendant près de 40 ans, y a des choses qu'on sait plus faire, simplement. Et nous, au design, on est un peu au cœur de tout ça, donc sans design, il n'y aura pas de renouveau du vélo, pour des questions immatérielles, ou pour des questions tout à fait matérielles, c'est-à-dire la forme du cadre, etc. Mais il y a aussi une question immatérielle qu'il faut traiter.
Merci à Alexandre Skirati, Frédéric Errand, Jacques Seret, Émilien Lefebvre, Bernard Chaussinant, Jean Chaumien et Jean-Louis Fréchin. Anne-Gaëlle Clos, Henri Roussel, Renaud Collin, Lionel, Clément, Marco, Michel et Guimette de l'usine à vélo. Lecture Julie Navarre, Archivina Audevassan et Christelle Rousseau, documentation musicale Virginie Gresset, attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales. Coordination Perrine Carvin. Un documentaire de Julie Navarre, mixage Bruno Mourlan, réalisation Jean-Philippe Navarre. À suivre, la vélo-révolution, la transition cyclable.